Esther Hardy, Esther qui chaque semaine fait le tour du monde.
Oui.
Il nous revient avec des cartons, plein de nouvelles, plein de sujets. Et on va partir le bal. Il y a une start-up, on faut s'habituer, hein? Il y a une start-up française
voilà.
qui veut créer un logiciel pour permettre de que la langue des signes puisse être facilement traduite, en fait. De l'oral à la langue des signes.
Très ingénieux. En fait, la façon que ça va fonctionner, sur l'écran, il va y avoir un genre d'avatar.
Ah, d'accord.
Qui va ressembler à un être humain.
Oui, oui, oui.
Et qui va faire le langage des signes. Naturellement, c'est le LSF, donc le langage des signes français.
Parce qu'on parle d'une start-up
française.
En France. Voilà.
Oui, voilà.
Qui dit start-up dit France. Mais là, je commence à devenir malicieux, il faut que je fasse attention. et la compagnie s'appelle Signifia.
Oui, c'est Pierre Arreau, un jeune ingénieur de 25 ans qui a lancé sa petite boîte il y a un an. En fait, c'est qu'il y a une de ses amies qui, à l'université, s'est rendue compte qu'elle a été obligée d'arrêter ses études parce qu'elle n'avait pas assez de support autour d'elle pour pouvoir arriver à faire ses études. Donc, tout ce qui était audio... Elle ne pouvait pas l'entendre parce qu'elle est...
Elle vivait avec une surdité.
Voilà, puis, exactement.
Et ça l'a touché. Et
ça l'a beaucoup touché, oui, voilà.
Il faut trouver quelque chose. Évidemment, l'intelligence artificielle va participer à, je dirais, à la fluidité de cette affaire. Moi, je pense aux gens qui, en ce moment, font sont des interprètes de langue des signes qui vont être obligés, peut-être, parce qu'on voit ces gens-là à l'écran qui traduisent
cinéma,
en langue des signes ce qui est dit à haute voix.
Voilà.
Mais enfin, on ne veut pas leur souhaiter du mal, mais on peut imaginer que le petit, l'avatar, le petit dessin animé, en fait, qui va faire les bons gestes, va permettre d'avoir une traduction facile.
On l'espère. Ceci dit, il va falloir que ça soit quand même testé. Puis
oui.
Justement, les gens qui en ont besoin pourront vérifier la validité.
Oui, de... la pertinence.
Oui, voilà.
C'est sûr qu'au début, peut-être qu'il va y avoir des dérapages. Hein?
on a vu
la semaine dernière, Google qui voulait lancer son moteur d'intelligence artificielle, Bard, et qui, en pleine soirée de lancement, on lui a posé une question et Bard s'est planté, a donné une mauvaise réponse. Alors,
mauvais début.
Ouais, mauvais début. Enfin, mais c'est pas grave, l'idée est là et ça peut faire beaucoup, beaucoup de chemin.
Oui.
Parlant de langue des signes, d'une façon plus artistique, il existe le chant signe.
Oui, c'est juste le nom est intéressant, mais on devine chant et signe. Donc, le chant signe, je pense que ça existe depuis quand même un certain moment. C'est un danseur... Adamo, qui lui a rencontré, en fait, c'est des Canadiens en plus. Donc, Adamo est en français. À Berlin, il a rencontré des Canadiens qui lui ont appris le chant signe. Et en revenant en France avec une dame qui s'appelle Laïti, qui, elle, a commencé à apprendre la langue des signes là, à l'âge de 15 ans, ils ont créé ensemble... Cette discipline artistique, ben ils l'ont créée. En fait, je pense qu'elle existait déjà, mais mettons qu'ils
ils l'ont
promu.
Ils en ont fait la promotion, tout à fait.
Voilà.
Ils s'y plongent.
Ils s'y plongent complètement, puis ils ont vraiment innové au maximum. Ils disent que c'est un art qui est en constante évolution. Donc, on peut comprendre que c'est de l'interprétation de la langue des signes sur la musique.
Avec une danse. Donc,
avec une danse,
à la fois, ils dansent. Il signe en même temps.
Oui. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on le voie, François, pour comprendre exactement la valeur et la beauté de l'œuvre. Mais d'après ce qu'il explique, il peut y avoir des mimiques. Il peut y avoir, justement, beaucoup de danse et le langage des signes.
La langue des signes qui donne le texte, mais en même temps, il y a une expression artistique
voilà.
qui peut être plus... dansante ou simplement d'expression faciale. Et donc, ils peuvent reproduire de la poésie, des œuvres.
Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a touchée en lisant cette nouvelle-là, c'est que on dit que... en fait, c'est lui, Laïti et Adamo disent que finalement, c'est la poésie de du langage des signes, finalement.
De la langue des signes. Et chant signe, déjà, le nom est joli.
Oui, très beau.
Alors ça, évidemment, on pense au chant du signe, là, mais il ne faut
c'est
pas le dire.
C'est pas tout à fait cela.
Mais voilà. Maintenant, dans un domaine, mais là, beaucoup plus terre-à-terre, toujours en France, il est question de rendre les gares accessibles.
Oui, le gouvernement français veut rendre les gares accessibles à 70 % en fait pour tous ceux qui ont une mobilité réduite. Donc, c'est le délégué ministériel à l'accessibilité, Carole Guéchi, qui a donné pour objectif de rendre accessible d'ici la fin 2025 70 % des gares aux personnes en situation de handicap. Mais bon, il y a des critiques à ce niveau-là parce qu'il y a un objectif qui était déjà rendu. Et selon le président de l'Association Mobilité Réduite et cofondateur de la Galaxie Mobilité Réduite, M. Jean-Michel Royer, il estime que, bon, cet objectif-là n'est finalement pas très atteignable.
Parce qu'il y a toute la je dirais, tout ce qui est mis en place à Paris pour les Jeux olympiques, hein, bientôt.
Ah, c'est vrai, tout à fait.
Et il y a vraiment comme un effort,
volonté,
une promesse
oui.
d'accessibilité pour les Jeux, que la capitale française, Paris, devienne totalement accessible. Alors, il y avait une cible 2024. Là, on est rendu
ça
à 70 % des gares. Ouais. Il faut comprendre, gares, on ne parle pas que Gare du Nord. Là.
Le métro,
on parle
en fait,
de vraiment toutes les stations de train de banlieue, ainsi de suite.
Puis, il y en a beaucoup, hein, c'est très...
Oui, il y en a partout. Mais M. Royer, lui, pousse plutôt le tramway en disant le tramway, c'est simple, c'est de niveau, ça ne demande pas d'adaptation, puis d'escalier, puis d'ascenseur. Alors,
voilà,
peut-être que c'est de ce
solution,
côté-là qu'il,
ouais.
enfin, qu'il faudrait se
On va espérer, hein, oui, pour les parents olympiques, au moins que ça aille bouger un peu plus, là.
Toujours en France, et on voit des fois, c'est intéressant de voir comment les sociétés abordent des sujets de façon différente. Il y a eu un conseil national consultatif des personnes handicapées qui s'est réuni début février et l'occasion d'un débat public sur le thème « Quelle vie intime, affective et sexuelle pour les personnes handicapées? » Et ça, c'est un domaine où il y a un tabou et des préjugés, là, c'est des murailles.
On peut comprendre François quand même.
Ben oui, tout à fait. Mais, et là, il existe un concept en France qui, ici au Québec, je ne pense pas, existe. Il s'agit... Des assistances ou des assistances sexuelles.
Oui, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça existerait probablement déjà en Belgique. Et le problème
D'accord.
est très clair et très simple. C'est que quand on parle d'assistance sexuelle, naturellement, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui donne du plaisir à une autre personne pour que, justement, elle se sente bien. L'idée est là. Bon, ça veut naturellement dire qu'on doit passer par la légalité. Donc,
oui.
est-ce que l'organisme qui va offrir ce service-là va devenir taxé de proxélytisme?
Oui.
Est-ce que la personne qui va le recevoir, qui va le donner, va devenir une forme de prostituée? C'est tout ça
qui doit être ou bien ça devient
légalisé.
Très encadré. Avec,
oui, voilà.
Un peu comme des gens qui sont des préposés aux bénéficiaires, mais
oui.
avec une spécialisation.
C'est très intéressant que vous dites ça, François, parce qu'à date, ça se fait... sous la couverture, on va le dire, là, au figuré et peut-être aux pratiques, on ne le sait pas. Mais justement, c'est des assistants qui le font.
Oui.
Bon, puis tout ça est un peu délicat encore là parce qu'il faut quand même éviter aussi l'harcèlement, tu sais, je veux
tout
dire.
Tout à fait, oui, on peut penser que la personne salariée qui offre cette prestation puisse devenir lui-même victime de harcèlement de la part... du bénéficiaire du service. Alors, c'est pas évident
c'est
à encadrer,
délicat.
Mais en même temps, ça amène, ça nous oblige à avoir un débat sur comment les milieux de vie, entre autres, pour les personnes en situation de handicap, quand il y a une institutionnalisation, comment les milieux de vie ne sont pas conçus pour favoriser l'intimité.
Exactement.
Que c'est très difficile pour ces personnes de vivre leur sexualité d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils n'ont comme pas d'espace à eux ou à elles.
Intime,
Et là, il y a... Parce que très longtemps, l'institutionnalisation a finalement été un déni de la sexualité des personnes en situation de handicap. Là, c'est comme, ben Ça ne les intéresse pas, ils n'en veulent pas, ils ne savent pas ce que c'est, puis ce n'est pas grave, puis on va les caser.
L'infirmité n'est pas nécessairement à tous les niveaux. Hein. On va le dire, l'handicap n'est pas à tous les niveaux.
Exact.
Là. Le désir reste et il faut avoir la maturité, je dirais, d'être capable de l'encadrer.
Et comme société, d'être capable d'en parler.
Oui.
Hein? Alors, ça,
il y a
c'est,
beaucoup d'étapes à passer. En fait.
Alors, on parle donc d'un débat qui a lieu en ce moment en France à ce sujet-là. Je ne sais pas si ça va... je dirais arriver jusqu'à nos rivages et est-ce qu'on va en parler ici aussi d'une façon ou d'une autre, mais on ne peut pas ne pas en parler. Je pense que ça a son importance. Cela dit, on va se transporter maintenant. Ouf! On change de continent.
Complètement.
Hey, voilà, au Tchad.
Oui, voilà. Au Tchad, en fait, les personnes handicapées réclament une amélioration de leurs conditions de vie. Et ça, on le comprend très bien. Donc, il y a une journée qui est consacrée, en fait, la Journée nationale des personnes handicapées, qui a eu sa 29e édition le 7 février. Et à ce moment-là, les personnes qui sont en condition d'handicap ont demandé... finalement, qu'on leur offre de meilleures conditions. Et d'ailleurs, en fait, le gouvernement est très ouvert à la chose. Bon, maintenant, il faut qu'il commence à, je dirais, que les pieds suivent les babines, comme on dit.
Oui, bon, oui, ben, il faut être capable de...
Il
faut être capable de... C'est bien de le dire. Tout le monde est pour la vertu.
Oui, tout à fait.
Encore faut-il qu'il y ait
une volonté politique
se traduise par des gestes concrets, parce que souvent on parle de culture ou de communauté où le handicap est encore vu comme une fatalité. La possibilité de faire autrement peut parfois être reléguée.
Oui, puis comme on disait, bon, on en a parlé plusieurs fois, même la semaine dernière.
Oui, on parlait du Burkina Faso la semaine dernière.
C'est que, surtout dans les régions, dans les grandes villes, les services sont un petit peu mieux offerts. Donc, ils donnent la possibilité aux gens d'aller faire de la formation, de devenir autonomes, etc. Donc, à partir du moment où les gens ne sont pas autonomes, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux, finalement.
Oui, exact.
Ils ne revendiquent rien.
C'est important de voir... Au Tchad ou ailleurs dans les pays d'Afrique de l'Ouest ou en Europe et même chez nous, là, on passe notre temps à pousser sur des portes. Là. Certaines s'ouvrent plus facilement que d'autres, mais c'est certainement un pas dans la bonne direction parce qu'une 29e édition tout de même de la Journée nationale des personnes handicapées, ça fait déjà près de 30 ans que cette préoccupation existe au Tchad et on va suivre ce dossier-là de très près. En parlant de très près, on va se rapprocher de chez nous, hein? Voilà, après la pause. Un sujet qui a été abordé la semaine dernière, mais manque de temps, on n'a pas pu finir là-dessus, c'est l'accessibilité théâtrale au Rideau Vert.
Oui, en fait, le Rideau Vert donne vraiment une accessibilité universelle à son théâtre pour voir. Donc, on va avoir de l'interprétation LSQ. À certaines représentations. En fait, celle du 7 février, malheureusement, est déjà dépassée, mais il reste celle du 23 mai pour la pièce « Trace d'étoiles ». Donc, si on a envie d'aller voir la pièce « Trace d'étoiles », on va avoir la langue du Québec, la langue des signes du Québec, le LSQ. Donc, on n'a qu'à réserver. Il faut vraiment le dire d'avance, par contre, pour qu'il puisse vous réserver une place, tout simplement, là. Ensuite, il y a de l'aide à l'audition.
Oui.
Ça, c'est très intéressant aussi.
Ça, c'est le deuxième mardi du calendrier des représentations.
Oui. Encore là, je vous donne tout de suite la représentation. Ce serait le 16 mai pour Trace d'étoiles.
Mais il y a quelque chose, je pense, le 21 mars aussi.
Ah oui, Pif Luisant, voilà. Le 21 mars. Donc, il faut simplement, syntoniser le 105,3. À notre téléphone intelligent ou en tout cas une...
Et là, à ce moment-là, on peut entendre. Ah, mais là, ça va faire du bien.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appareils pour les gens qui ont un handicap
auditif.
Auditif, merci. qui ont le pas un genre de Wi-Fi, mais enfin, ça fonctionne très bien. Et si jamais on n'a pas d'appareil, Le Rideau Vert peut nous en prêter.
Ah non, nous faire. Oui. Ah, ben ça, c'est gentil.
Oui, c'est fantastique. Faut juste leur demander à l'avance. Hein. On peut aussi avoir, je crois que c'est dans les mêmes représentations que celles du LSQ, du sous-titre codé en français. Laisse-moi regarder pour les dates. Ouais, en fait, c'est le 16 mars et le 21... Le 21 mars et le 16 mai.
Aussi.
Qui sont aussi les mêmes dates. Oui, voilà.
Alors, ben, ça nous donne toutes sortes d'occasions d'aller faire un tour.
Hein, c'est merveilleux, je trouve ça fantastique.
De sortir. On sort, la rue est-elle accessible?
Oui. La
question piétonne à Montréal, au sujet de laquelle nous allons faire une émission spéciale, on vous en reparlera au cours des prochaines semaines.
Oui,
il y a une grande consultation organisée par la Ville de Montréal. Et là, prenez bien en note... que ce soit d'une façon ou d'une autre, papier, crayon ou sur une appli avec votre téléphone, on va vous donner des dates et des heures.
Oui, en fait, la traversée des rues, mesures d'accessibilité universelle et mobilité active. La Ville de Montréal fait une grande consultation et c'est vraiment de vous, de nous, qu'ils veulent entendre parler. Il y a eu une première réunion le 18 janvier. Maintenant, on peut exprimer, donner son opinion, parler de ses propres difficultés là, à tous les niveaux. On a jusqu'au 27 février pour pouvoir donner cette...
témoigner.
Ce témoignage,
faire une
exactement.
Représentation, oui.
Donc, je vous invite à aller sur le site, mais je vais vous donner tout de suite le numéro de téléphone. C'est le 514-872-3000. Donc, le 514-872-3000. Suite à ces témoignages, il y aura ensuite le 14 mars une visioconférence de la commission.
D'accord.
Donc, qui sera suivie le 27 mars par une autre réunion qui, elle, sera en personne. Donc, la première, le 14 mars, c'est en visioconférence et le 27 mars, ce sera dans la salle du conseil d'hôtel de ville.
Et à chaque fois, on pourra présenter...
Notre opinion,
dans la mesure où nous nous sommes inscrits avant le 27 février.
Exactement.
Donc, si on veut participer à la réunion visioconférence du 14 mars ou en personne celle du 27 mars, il faut avoir été, s'être inscrit le 27 février au préalable, parce qu'évidemment, eux, ils doivent bâtir une sorte d'ordre du jour.
Voilà. Et il y aura les conclusions qui seront données le 10 mai. Mais ça, on va en reparler.
On aura le temps d'en reparler plus avant. Il y a une autre initiative de la Ville de Montréal qui est un peu parallèle à celle-là, dont les gens du RAM nous ont fait connaître. Ça s'appelle Accessibilité universelle. Venez imaginer une vision ambitieuse pour 2030. Alors, vous rêvez d'une ville accessible et inclusive, vous avez envie de participer à la transformation de votre ville. La Ville de Montréal et ses partenaires, en collaboration avec la coopérative Meilleur Monde, vous invitent à participer à un atelier pour contribuer à mieux définir une vision solide et ambitieuse en accessibilité universelle. Cette vision servira ensuite au personnel de la ville pour prendre des engagements centrés sur vos besoins. Alors, ce qui est proposé, c'est de participer à un atelier de travail de 3 heures. Alors, évidemment, il faut s'y engager, là. C'est pas juste dire « j'aimerais avoir un feu sonore à tel coin de rue ». Là, il faut avoir une participation active pendant 3 heures. Et ces interventions-là seront centrées autour de 4 thèmes, l'architecture et urbanisme, communication et participation citoyenne, programmes et services genre sport, culture, loisirs, sécurité, déneigement, voilà, et emploi et formation, sensibilisation. Alors, si vous êtes une personne qui aime partager ses idées et avez envie de contribuer à l'amélioration de l'accessibilité de la Ville de Montréal, si vous habitez évidemment à Montréal, ou que vous représentez, ou si vous représentez un organisme montréalais qui vit ou connaît la réalité des personnes qui rencontrent des obstacles d'accessibilité, ça nous intéresse, à l'accessibilité universelle, inscrivez-vous. Alors, le lien suivant, c'est réalisonsmontréal.ca, réalisons au pluriel, réalisonsmontréal.ca, et vous pouvez y participer. Les dates de ces ateliers de 3 heures sont le 8 mars, le 23 mars, le 4 avril et le 18 avril. Certains sont en personne, d'autres sont en réalité virtuelle. Et pour réserver votre place, c'est avant le 19 février. Et le 19 février, c'est bientôt. Alors, si vous voulez réserver vos places, bien faites ça tout de suite. Réalisons Montréal. C'est là où vous devez vous inscrire. Merci. C'était le petit bulletin de ce côté-ci. Et je vous relance la balle, Madame Hardy.
Oui, parce qu'on continue. Piéton Québec, qui est un organisme, fait son premier sommet sur la question piétonne. Donc,
on est dans le piéton, là. Voilà.
Oui, puis on prend soin de nous. Et cherche présentement des gens qui seraient intéressés justement à partager leurs pistes de solutions, leurs outils, leurs actions, les actions qui permettraient la mise en œuvre d'actions concrètes pour favoriser les déplacements à pied dans les milieux de vie québécois. Donc, on vous invite à remplir le formulaire de proposition qui est sur le site de Piéton Québec d'ici le 24 mars à 18
h. Et ça, c'est pour préparer un premier sommet sur les questions piétonnes. Voilà. Il y aura lieu les 16 et 17 octobre 2023 à Drummondville. Drummondville qui, comme on le sait, est le centre du Québec. C'est parce qu'on se réunit toujours à Drummondville parce que c'est toujours proche. Hein?
C'est plus facile pour tout le monde.
Avant, on passait à côté du Madrid, là, qui était comme... c'est là qu'on mangeait, puis on faisait le plein d'essence quand on allait à Québec. Mais sans blague, à Drummondville, les 16 et 17 octobre, le premier sommet sur les questions piétonnes organisé par Piéton Québec.
Piéton Québec.
Donc, encore une fois, on s'inscrit si on veut y participer et témoigner de notre vécu à titre de piéton. On en parle beaucoup de ce temps-ci. Ça a été affreux, tous les accidents impliquant des piétons depuis toujours et particulièrement cet hiver. Le bilan est lourd. Eh bien, ça commence à bouger.
Oui, alors, on en a besoin. C'est
tout
vraiment
à fait.
Important.
Et puis, oui. Maintenant qu'on soit en mesure de donner un peu notre opinion et d'influer sur les décisions à venir, bien, profitons-en.
Profitons-en, exactement.
Et maintenant, on va profiter de la nature. On va aller à Coaticook.
Oui, vous
terminer.
Connaissez le parc de la gorge de Coaticook. Êtes-vous déjà allé faire
un tour, magnifique.
François? Oui, vraiment.
C'est magnifique.
Donc, maintenant, les personnes à mobilité réduite été comme hiver pourront faire une randonnée parce que le parc s'est doté de chaises, je pense qu'ils les appellent des hippocampes.
Ben
c'est
oui,
trop merveilleux! D'une valeur de 12 000 $, oui. Ce qui n'est pas rien, c'est quelque chose de quand même dispendieux. Puis ils les prêtent gracieusement. Ça ne demande pas un sou. Donc, les gens qui sont à mobilité réduite puis qui aimeraient aller faire une belle randonnée été comme hiver.
En fait, peuvent y aller.
C'est incroyable. Ces hippocampes-là vont même dans l'eau.
Mm-hmm. Ben, ils ont aussi acquis un dahu qui est une sorte de berceau dans lequel on peut littéralement transporter quelqu'un qui a des difficultés motrices importantes. À chaque année, des fois, il s'est déjà arrivé qu'il y ait des courses de dahu pour monter le Mont Orford, mais ça, c'est une autre histoire. Et on a également, au parc des gorges de Coaticook, ils ont fait l'acquisition d'un Trax. Hein? On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, je pense, avec M. Lefebvre, en début d'émission. Voilà. Donc ça, c'est un rendez-vous ludique. Si on peut y aller hiver comme été, il commence à faire plus de soleil, il y a de la neige, ainsi de suite. Ça commence à être invitant à sortir.
C'est vraiment merveilleux. On conseille quand même d'avoir quelques personnes autour de la personne qui va utiliser l'hippocampe.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être préférable de s'informer puis réserver. S'il y a un nombre limité d'équipements disponibles, il ne faut pas être déçu si on arrive là-bas. Puis il n'en reste plus, on est peut-être mieux d'appeler au parc de la gorge de Coaticook
pour
s'informer puis faire des réservations. On a parlé récemment beaucoup du transport adapté qui était parfois et souvent problématique. Il semble qu'en Colombie-Britannique, ils ont les mêmes challenges.
Oui, exactement. Donc, le gouvernement vient de lancer un projet pour augmenter les taxis accessibles en circulation. Donc, c'est sûr que, pour le moment, si on pense à Londres, qui ont 100% des
taxis
noirs.
Oui, gros taxis noirs, là, qui sont comme des... oui, ils sont énormes. On dirait des tanks.
Oui,
mais ils sont adaptés. Voilà.
Ils sont adaptés. Donc, présentement, en Colombie-Britannique, il y a 10% du parc automobile qui est adapté. C'est quand même pas si mal. C'est un début, hein?
Oui.
Mais il y a une volonté de l'augmenter, définitivement.
L'adaptation d'un véhicule pour faire du transport adapté, c'est très coûteux. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Et beaucoup de personnes qui pourraient offrir ce genre de service sont découragées par les coûts. Au Québec, il y a des formes de subventions à cet effet. Et là, maintenant, c'est en Colombie-Britannique où on réclame une aide pour élargir le parc automobile adapté en Colombie-Britannique. Alors, c'est à suivre.
C'est une excellente chose que le gouvernement mette, là, finalement.
Tout à fait. La semaine prochaine, on va continuer à parler de tas de trucs qui se passent, entre autres en Ontario, pour les services à domicile. Hein, on aura le temps d'en discuter plus avant la semaine prochaine. Ben, merci beaucoup, Esther.
Merci, François.
Esther Hardy, notre globe-trotter virtuel, voilà, qui nous revient toujours avec plein de sujets intéressants.